In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. L'automne s'est installé bien fermement avec son lot d'averses, de feuilles mortes et de vents frisquets. C'est plutôt rassurant, mais ça, c'est l'automne météorologique. Parce que l'automne semble aussi s'être trouvé une déclinaison dans notre vie publique. Il n'est pas une journée qui ne voit une averse de mauvaises nouvelles, une chute de décisions mortes, une bise d'idées nauséabondes soufflées. Et après l'automne, comme on dit dans la célèbre série Game of Thrones, « Winter is coming ». Il y a vraiment de quoi frissonner. Aujourd'hui, pour ce 161e épisode, un menu bien étrange, puisque je vous propose de rencontrer un peintre qui écrit et une lectrice qui fait de la radio. Comme quoi le monde des livres en Anjou recèle des trésors insoupçonnés. Le peintre, c'est Roland Noël. Le peintre, c'est Laurent Noël. Bonjour Laurent Noël.
Bonjour.
La lectrice, c'est Manuela. Bonjour Manuela.
Bonjour.
Alors, Laurent Noël, vous êtes un artiste. Pour vous, le quotidien, c'est l'atelier dans lequel vous travaillez le dessin, la peinture, la gravure. Mais vous écrivez. Vous écrivez même beaucoup. Poésie, livres d'artistes et puis aphorismes. Et c'est pour cela que je vous ai invité dans Entre les pages. Votre dernier livre, Pique peindre, c'est un recueil de vos aphorismes et sorti au printemps dernier. Il a été publié chez Cactus Inébranlable, édition. Alors là, les noms de maisons d'édition, c'est presque comme les noms de coiffeurs. Ils ont une imagination débordante. Une maison d'édition belge et plus précisément wallonne. Avant de parler de ce recueil, qui êtes-vous, Laurent Noël ?
Qui je suis ? Je suis comme tout le monde, un être vivant, multiple, qui essaye de tenir le coup dans ce monde un peu déraisonnable. Et pour ça, j'ai comme moyen à ma disposition diverses expressions, dont la peinture, mais aussi l'écriture. Enfin, peinture, gravure, comme vous l'avez dit, et l'écriture. Et il se trouve que dans cet ensemble de possibilités d'expression, il y a des mélanges, il y a des traversées, des interactions.
L'idée de publier un recueil d'aphorismes, elle est venue d'où ? Elle est née d'où ? Elle est née de quoi ?
Eh bien, ces aphorismes existent depuis longtemps, c'est-à-dire que je tiens, un peu moins régulièrement maintenant, mais un blog que j'ai appelé, ça fait déjà plus de 15 ans, que j'ai appelé « Le fond de ma pensée », dans lequel j'écrivais des articles d'humeur, des billets, etc., sur l'art et le monde de l'art, ou les... Et de temps en temps, je glissais quelques aphorismes, quelques phrases courtes. Et j'ai progressivement enrichi ça. Enfin, je me suis orienté un peu plus vers ça. Et j'ai nommé ces phrases courtes les idées courtes. Donc, la plupart de ces aphorismes viennent de ce blog. Et au bout d'un moment, j'en avais 500, peut-être un peu plus de 500. Et j'ai eu envie de les rassembler, parce qu'ils étaient dispersés dans le blog. Et j'ai eu envie de les rassembler sous la forme d'un véritable livre, qu'on pourrait feuilleter, sur lequel on pourrait s'arrêter quand on voudrait, et voilà ce qu'il est devenu. Donc j'ai proposé ça à cette maison, le Cactus Inébranlable, qui est une maison qui est spécialisée dans les formes brèves, essentiellement les aphorismes.
Donc là, l'envie d'abord de les regrouper, ça veut dire que il y avait un besoin de les voir exister en tant que tel, que le numérique, le virtuel, est pas suffisant, que le papier est important. En quoi le papier, cette forme archaïque, elle était importante pour vous ?
elle est archaïque, mais elle est actuelle également. Et le papier est quelque chose, pour un artiste, plasticien, le papier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les gravures se font sur papier, les encres se font sur papier. Et donc, pourquoi pas les mots ? Et je crois qu'il... Enfin, j'ai toujours eu un rapport très, très étroit avec le papier. Les voir uniquement sur des écrans, non, ça ne me suffisait pas.
Ça ne marchait pas ?
Ça marchait, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Puis j'avais envie d'en faire quelque chose de plus cohérent, de plus cimenté.
Alors, l'exercice de l'aphorisme, c'est, on va dire, je vais utiliser un euphémisme, délicat. C'est un exercice d'équilibriste. C'est parfois injuste, peut-être vaniteux. Il faut aller jusqu'à ce... Alors, je vais en lire quelques-uns parce que... Alors, je n'ai pas à tout lire. Hein. Je vais en lire juste quelques-uns pour mettre tout le monde dans le bain. Donc, je m'empare de mon recueil. Certains artistes, pour marquer leur territoire, vont lever la patte jusque dans les églises. Je les ai sélectionnés volontairement. C'est vraiment un choix arbitraire. L'autre jour, au Masque et la Plume, un critique s'étonnait de découvrir, au travers de la biographie filmée d'un poète italien, la difficile condition de génie incompris. Il n'avait qu'à me demander. Allez, je vais en faire un autre pour la route. Très disert sur son travail. Il parle si bien de sa peinture. De surcroît, il est beau, grand, rassé. Mais quelle déception tout à coup, en voyant ces toiles si communes, petites et vulgaires. Voilà, ça donne un peu une idée. C'est pour ça que je parlais de parfois injuste, parfois vaniteux. Il faut assumer tout ça.
Oui, mais j'assume tout à fait. Oui.
Ouais.
En fait, c'est un ensemble d'aphorismes qui évoque... La vie d'artiste, si on veut, c'est-à-dire sa condition, ses réflexions, ses colères, ses humeurs, en fait. Un artiste a des humeurs, comme tout le monde, et les aphorismes sont une part de ses humeurs. Alors, l'exercice, effectivement, est délicat parce qu'il consiste à resserrer énormément pour arriver à une phrase courte, à une idée courte, justement, et qui laisse un temps après de réflexion, qui devrait interroger. Alors, certains sont quelquefois un petit peu piquants, je reconnais. Mmh. D'autres sont, j'espère en tout cas, plus poétiques. D'autres sont plus engagés. D'autres sont plus tristes. Sont plus... Enfin bref, il y a toutes sortes d'humeurs, effectivement. Et c'est ce passage du coq à l'âne qui m'intéresse beaucoup.
En vous écoutant, on voit que ça a été que c'est réfléchi. Ce n'est pas par inadvertance. C'est-à-dire que j'imagine qu'un aphorisme... Il surgit, en fait, voilà, tout d'un coup, on a une idée, on se dit, tiens, oh, bah, ça tient un peu la route, on la met en... Mais c'est quand même travaillé, c'est pas fait à la légère, quoi.
Non, ça n'est pas fait à la légère. L'idée, de base, effectivement, elle est brouillonne, comme n'importe quelle idée. Au départ, c'est chaotique, une idée, ça n'a pas de... Et il y a une mise en forme de cette idée. Et si on va vers l'aphorisme, il faut que cette mise en forme se dépouille, se dégraisse d'un certain nombre de choses pour arriver à quelque chose de cibler, je ne sais pas si c'est cinglant, parce que ce n'est pas toujours cinglant dans le mauvais sens du terme, mais d'efficace en quelque sorte.
Mais à nouveau, je dis, ça semble très réfléchi. C'est donc, est-ce qu'on peut considérer que ce travail-là, et je parle bien de ce travail-là, ça fait partie de votre travail d'artiste ? Vous l'intégrez dans votre travail d'artiste. Parce que quand on les lit, moi je les ai tous lus, la peinture est prééminente. Le rapport à la peinture, le rapport aux artistes, enfin c'est prééminent. Cependant, c'est un travail. Vous n'êtes, en composant ce recueil, vous n'êtes pas que peintre.
Non, 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 je ne suis pas que peintre. Pour parler de l'atelier, pour parler de la peinture, il y a la peinture. C'est vrai, il y a la gravure, enfin. Mais les mots, quelquefois, ont leur utilité pour parler de la peinture, pour l'évoquer. Il y a beaucoup de peintres qui écrivent ou qui ont écrit. Les écrits d'artistes sont une catégorie, finalement, dans les livres, qui a une certaine place. C'est une catégorie qui prend de la place, oui.
Alors, moi, j'imagine toujours un artiste très concentré. Quand on lit les aphorismes, On voit bien vos cheminements, vos errements, vos déambulations, les îles, les bords de mer, tout ça. Et puis, moi, j'imagine toujours, d'abord, c'est dit dans le recueil, il y a une forme de solitude dans le travail, mais j'imaginais presque le silence. Et puis, on découvre des éléments, des choses. Je prends cet aphorisme-là. Pour commencer une journée d'atelier, je dois disposer un choix réfléchi de couleurs autour de mon assiette palette, basé sur le projet à reprendre. Mais il m'est aussi indispensable d'aller prélever judicieusement dans ma discothèque les morceaux qui l'accompagneront. Rien ne va pas sans l'autre. La musique, donc, accompagne votre travail créatif.
Très fréquemment, très fréquemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la musique accompagne mon travail de peinture ou de gravure, mais n'accompagne jamais mon travail d'écriture. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis à ma table d'écriture, la musique me gêne, me dérange. J'ai besoin d'avoir une concentration très particulière et la musique me détourne de cette concentration, m'empêche. Alors que pour la peinture, je choisis effectivement des disques, des morceaux qui sont en rapport avec l'énergie qui va être utile, nécessaire pour travailler ce que je dois travailler ce jour-là. Entre des très très grands formats, très gestuels, où j'ai besoin d'une musique extrêmement dynamique, très puissante, très bon, et des gravures très minutieuses, très méticuleuses, où là il me faut une musique peut-être plus calme, plus posée. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de faire ces choix.
Des artistes que vous écoutez qui vont, accompagner vos gestes, votre chorégraphie, parce que comme vous travaillez sur des grands formats, voire des très grands formats, ça relève presque de la chorégraphie, hein, ce que vous... Quand on voit quelques images, ça bouge beaucoup. Quels artistes musicaux vous accompagnent dans ces moments-là ?
Oh, ben c'est extrêmement varié, ma discothèque.
Oui, justement, mais c'est moi ce qui m'intéresse, la diversité, justement.
La diversité.
D'un point A à un point Z.
Ah, ça va de, je sais pas, du hard rock, de ma génération peut-être, mais Aerosmith, Deep Purple, etc., vers des choses beaucoup plus jazz, Avishai Cohen, je ne sais pas, des choses qui sont de la musique, qu'on appelle la musique du monde, mais toute la musique est dans le monde, mais des musiques de toutes sortes, de la musique classique fréquemment. Là, je suis en train d'écouter à peu près l'intégrale de Mozart, de Brahms aussi. Bref, c'est vraiment très ouvert.
Est-ce que ça veut dire que l'énergie que développe la musique, elle développe aussi l'énergie, votre énergie corporelle dans le geste, dans le mouvement ?
Ah oui. Dans le travail de peinture, il y a la notion de rythme qui est essentielle. Et la pulsation d'un morceau musical ajoute ou entretient ou nourrit ce rythme gestuel qu'il y a dans la peinture. Et dans l'écriture également, mais dans l'écriture calligraphique.
Alors, il y a un aphorisme que je n'ai pas compris et que vous allez m'expliquer nécessairement. Parce que ça touche à un peintre... auquel on ne doit pas toucher pour moi. Donc, Edward Hopper, pour peindre en 1963 sa toile « Sun in an Empty Room », aurait-il lu l'aphorisme de Lichtenberg J330, écrit vers 1790 ? Quand je mets tout bout à bout, je ne comprends rien.
Il faudrait se référer au fameux aphorisme de Lichtenberg.
Voilà.
Alors, je ne l'ai pas avec moi, je ne l'ai pas complètement en tête,
oui.
Mais c'est un aphorisme qui évoque... vraiment la lumière seule, la solitude dans une pièce éclairée d'un seul rayon de lumière. Voilà. Cet aphorisme de Lichtenberg parle de ça, dit ça, c'est-à-dire donne cette image-là. Et quand j'ai lu cet aphorisme de Lichtenberg, parce que j'en lis beaucoup des aphorismes aussi,
paraît évident.
Cette toile de Hopper m'a sauté à la mémoire, la mémoire m'a fait revenir cette toile
magnifique de Hopper. Alors Hopper, peintre du vide, s'il en est. Pour moi en partie du vide, mais cette toile particulière, c'est vraiment la peinture du vide.
Ah oui, totalement.
Il n'y a rien.
Voilà.
Il y a du soleil, une pièce,
c'est ça.
Et c'est tout. Voilà.
Ne touche pas aux peurs, au contraire. C'est
magnifique.
C'est admiratif. C'est admiratif.
Magnifique. Dans la période actuelle, donc. Vous travaillez par, euh, par période. Hein, y a eu le travail qui s'appelait Les Jonchées, hein, qui était la période précédente. Là, vous êtes sur la période que vous appelez Les Jusantes. Alors, c'est un néologisme, hein, c'est vous qui l'avez conçu. Oui. C'est, les Jusantes, ce sont les laisses de mer, hein, c'est ça hein.
Oui, alors les laisses de mer, elles sont de toutes sortes. Là, c'est plus précisément les algues échouées, les dépôts, ce qu'on appelle le goémon d'épave.
Mm-hmm. Alors, de toute évidence, ce sujet est infini. Et dans ce que j'ai compris, alors ça, c'est plutôt au travers, de l'Atelier des Jusantes, donc un autre livre qui a été publié très, très récemment aussi, c'est qu'en fait, le sentiment de pouvoir travailler sur cette matière-là, il a surgi lors d'une balade au bord de la mer et des formes, semble-t-il, vous sont apparues dans ces goémons à moitié séchés, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Ouais.
La mer avait déposé des sortes d'écritures de goémons en haut de la plage. Et donc moi, je me promenais à mer basse et l'une de ces formes m'a frappé, vraiment. Et avant, j'avais l'habitude de regarder le paysage et là, j'ai regardé à mes pieds. Et depuis, je regarde beaucoup plus mes pieds. Enfin, ce qu'il y a à mes pieds, ce qu'il y a par terre, les dépôts, en fait. Mmh. Et donc, oui, c'est à partir de là que je me suis dit, mais il y a des formes étonnantes, incroyables dans ces algues qui m'évoquent énormément de choses, personnelles, bien sûr. Hein, et donc, j'ai commencé à dessiner, à aller sur ces plages pour dessiner, pour chercher ces formes et me laisser solliciter par ces formes.
Mais ces formes, elles sont destinées à disparaître.
Oui.
Au gré des marées, du vent, de la décomposition, elles ne seront plus nécessairement. Par contre, vous les rendez, votre travail les rend immortels.
C'est tout à fait ça, c'est le sujet. Hein. Le sujet, ce n'est pas du tout l'algue, absolument pas. Le sujet de ce travail, c'est effectivement le recommencement, le renouvellement des formes, la disparition, la perte, mais la retrouvaille finalement, avec d'autres formes qui finalement évoquent les mêmes choses. Donc c'est un cycle, c'est un cycle naturel, un cycle humain, un cycle... Mais c'est ça, c'est vrai. Le sujet, c'est ça, c'est le cycle. Oui.
Mais avec vous, le cycle s'interrompt puisque ça se fige.
Ça se fige. Moi, j'ai besoin de... C'est une sorte de mise en mémoire, finalement, c'est ça, de ces formes. Je les conserve, je fais une espèce de répertoire, de conservatoire voilà. De ces formes.
Ouais. Conservatoire de la nature qui se décompose.
Voilà.
Alors, ce phénomène, vous l'écrivez aussi, et c'est le sujet de cet autre recueil de poésie. Cette fois-ci, ça s'appelle Marée Fécite. Écrire de la poésie sur votre manière de vous libérer, est-ce que c'est votre manière de vous libérer de votre obsession ?
Non, pas de me libérer de l'obsession. Enfin, je ne sais pas si c'est une obsession. C'est une manière de la dire, en tout cas de dire de dire des énigmes, en fait. Parce que tout ça, c'est quand même très énigmatique, cette histoire du recommencement permanent. Et le travail de peinture, d'écriture, le travail artistique en général, c'est un travail qui va chercher au fond. On va essayer de comprendre. Des choses. Là, j'essaye de comprendre tout ça. Et tout ce travail d'écriture et de création, finalement, c'est un travail de recherche, rien d'autre.
C'est un travail de recherche. C'est un travail de recherche qui aboutit, puisqu'à un moment donné, il prend une forme, et qu'une fois que cette forme est prise, un recueil de poèmes, une toile, c'est fini.
Eh bien, c'est fini, oui, mais reste l'insatisfaction permanente.
Comment ça ? C'est jamais fini alors ?
Ben, c'est jamais fini et c'est bien pour ça qu'on continue à se lever, aller à l'atelier et continuer à travailler et à continuer à écrire parce que finalement, on a peut-être trouvé des petites choses. On a donné une forme à un moment donné parce qu'il faut s'arrêter à un moment donné, prendre du recul. Mais on se rend compte que tout ça est imparfait, que tout n'est pas saisi, tout n'est pas compris et il y a encore moyen d'aller creuser plus loin. Voilà. Et donc non, ça n'est jamais terminé, jamais.
Alors, pour donner un peu une idée, donc dans extrait du recueil Marée Fécite, un texte, un poème qui s'appelle Encore, délaissé, dessiné, renoué, revenu des grandes houles, sollicite main courante et papier quotidien. Alors l'air soufflera l'esquisse avant la relève, ni verbe, ni vent, ni trait vraiment, conséquence des gestes de l'eau, un échouage à la marge. Là, on entend bien l'infinitude du travail que vous conduisez, alors que vous avez toujours conduit. Est-ce que dans votre travail, parce que là, le mouvement de l'eau, le fait que ces goémons vont disparaître, mais réapparaître, de toute façon, c'est infini. Alors, avec le changement climatique, on peut se demander si un jour ça ne va pas disparaître définitivement. Est-ce que ces obsessions que vous avez, les jonchées, les jusantes, est-ce que c'est votre posture d'artiste? Avant, vous travailliez autrement?
Ben, je travaillais d'autres sujets, mais je me rends compte, et c'est absolument inconscient, enfin, je m'en suis rendu compte maintenant, c'est que je travaille sur le même thème depuis toujours, finalement, depuis le début, sur le thème du temps, et du temps en général, et plus particulièrement du temps artistique, enfin, du temps de travail et du temps créatif, du temps de la peinture. Et c'est ça, et qu'est-ce qu'il y a dans tout ce temps? Qu'est-ce qui s'y passe? Et finalement, le sujet est là, quoi, je crois.
Alors, on l'a dit, il y a un lien entre votre travail de peinture, de gravure, votre écriture. Alors, sur ce Maréficit, je voulais. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a un choix de papier qui s'appelle. C'est un vélin irisé Silver Mist. C'est un drôle de papier qui est irisé. Qui a eu l'idée de ce choix de papier?
Alors, c'est l'éditeur. Parce que c'est leur. D'ailleurs, cet éditeur a arrêté son activité il y a très récemment, malheureusement.
Les éditions Alcyone.
Les éditions Alcyone, c'est ça. Mais ils ont édité tous leurs livres avec ce papier. C'était un peu leur marque de fabrique. Oui, c'est leur marque de fabrique au sens propre. Ils ont choisi ce papier, ils le trouvaient. Je n'avais rien à dire. Personne, aucun auteur avait quelque chose à dire.
Là. Et vous, qu'est-ce que vous en... Ne rien avoir à dire ne veut pas dire qu'on ne pense rien. Donc, et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette matière-là qui est produite dans ce format-là? Ça vous donne quel sentiment? Moi, j'ai été surpris, ça m'a rappelé, ça m'a renvoyé 30 ans, il y a 30 ans, quand j'ai dû choisir du papier pour des travaux et où j'ai été confronté à l'utilisation de ce type de papier. Voilà, ça m'a replongé dans des souvenirs, en réalité. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un papier extrêmement étonnant. Enfin, j'avais pas vu ça depuis 30 ans.
Oui. J'avoue, je ne sais pas quoi en penser. Non, mais vraiment, oui. Sérieusement, je ne sais pas quoi en penser. Je me suis détaché de ce papier, je m'y suis habitué. Il est plutôt assez beau, enfin, il est assez précieux, je crois. Il donne une certaine préciosité au livre, une certaine qualité éditoriale, je trouve. Les mots sont peut-être un petit peu plus à la surface, finalement. Alors que j'essaie de faire des mots qui vont dans le fond des choses. Et un papier plus irisé, un petit peu plus satiné, peut-être laisse les mots imprimés, je veux dire, l'encre, un peu plus à la surface. Mais j'ai une préférence pour les papiers bouffants, pour les papiers qui sont amoureux de l'encre, si vous voulez, qui prennent l'encre vraiment au cœur, quoi, qui sont presque dans le papier.
Dans ce Maréficit, il y a des reproductions de vos travaux?
Non, il y a juste première page, une gravure.
Il y a une gravure.
Une seule gravure. Frontispice, oui.
Et pourtant, effectivement, moi, je trouve que ce papier, finalement, le met en avant. Enfin, le découpe. En fait, le fait surgir ce travail qui s'appelle le pas un geste. Hein. Et moi, j'ai trouvé que ça faisait. J'ai trouvé que ça le faisait ressurgir. Alors, j'insiste sur le papier parce que. Je suis passionné par les livres. Pour moi, un livre, c'est un texte, c'est du papier et c'est une police d'écriture et ça ne fonctionne qu'avec cet ensemble-là.
Bien sûr.
Voilà. Quand je suis surpris par un objet qui dénote vraiment dans l'édition, ça mérite d'en parler. Et maintenant, j'ai l'explication et c'est dommage, une maison d'édition qui a disparu, c'est regrettable. Donc, votre travail sur les jusantes. L'inspiration, elle se fait au bord de la mer. Vous habitez à Angers, Votre territoire, c'est la Maine, c'est la Loire. Alors, c'est quelle île qui revient régulièrement dans Piquepeindre?
Bon, c'est un secret, mais enfin, c'est l'île-Dieu.
C'est l'île-Dieu.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'elle a d'hypnotique, cette île?
Oh, c'est un lieu mémoriel pour moi, c'est un lieu personnel. Et si ça me permet d'amener quelque chose d'ailleurs, si j'ai une seconde. Un texte est en voie d'édition, qui paraîtra au mois de mars, et qui s'appelle « Lieu-tu », avec un trait d'union, donc par référence au lieu-dit, bien sûr. Et donc, on a tous en soi des lieux-tu, des lieux secrets. Et donc, l'île-Dieu est pour moi un lieu secret, pour tout un tas de raisons personnelles, qui se dévoilent un tout petit peu, mais très très peu, de façon suggestive dans les textes. Mais on a tous des lieux comme ça, sur lesquels on revient, qu'on n'oublie jamais, et ça en fait partie.
Eh bien, je trouve ça intéressant comme intervention pour conclure, en fait, pour terminer cet échange que nous avons. Je vous remercie, Laurent Noël. Nous allons faire une pause musicale.
1, 2, 3, à toi.
Tiene la libertà, soledad como cuerpo. Tiene la libertà, soledad como cuerpo. De cuerpo a cuerpo, de cuerpo a cuerpo, pero solo. De cuerpo a cuerpo, de cuerpo a cuerpo, pero solo. Sauvage, volage, il plane dans mon âme, sans fil, volatile, fragile, la fuite si agile. Pourtant, j'entends son nom à l'autre bout du monde.
Thank you.
Nous venons d'écouter Colline Linder qui a chanté Cuerpo. Et vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5, à écouter Entre les pages. Deuxième partie de l'émission avec une invitée étonnante, Manuela. Et Manuela s'est lancée dans une aventure surréaliste, à mon avis, en 2025, présenter sa propre émission sur Radio G et une émission qui nous importe, puisque Manuela lit. Rebonjour, Manuela.
Bonjour.
J'allais dire bonjour, chers collègues.
Oui, on l'est, après tout. Depuis peu, mais on l'est.
Oui, vous venez d'arriver sur la grille de Radio G, là, à la rentrée de septembre. Moi, ce qui m'étonne, pourquoi vous avez présenté ce projet à Radio G?
Alors, c'est plutôt l'inverse qui est arrivé, à vrai dire. J'ai fait un stage à Radio G en début d'année et le Fahadi, qui s'occupe de l'émission J'ai la ref, m'a proposé ce projet en sachant que j'adorais la littérature. Et évidemment, je n'allais pas dire non, puisque effectivement, j'adore la littérature. Mais du coup, c'est plus dans l'autre sens que c'est arrivé. C'est Radio G qui m'a proposé le projet plutôt que moi qui ai proposé le projet à Radio G.
Et quand on est sollicité comme ça, malgré tout, il a fallu rédiger un projet. Il a fallu le présenter.
Oui. Pendant mon stage, justement, j'avais préparé un essai à présenter. Mais effectivement, je pense que pour ce qui est de vendre le projet, ce n'est pas moi qui ai fait le plus gros du travail.
Ah, vous aviez un avocat ?
Oui, c'est ça. Effectivement.
Cependant, c'est un gros pari, se mettre derrière un micro et dire « je vais lire », l'été a dû être tendu, non ?
Oui, surtout que pour moi, c'est arrivé très très vite. J'ai été sollicitée début juillet, donc il y a tout qui s'est vraiment fait très vite. Mais c'est un projet qui m'intéressait énormément, donc la mise en place, ça a plus été quelque chose d'intéressant que de stressant.
Alors, pour présenter une émission comme celle-là, donc, qui s'appelle « Voix au chapitre », alors moi, j'ai fait à plusieurs reprises l'erreur, j'ai dit « la voix au chapitre », mais ce n'est pas « la voix au chapitre », c'est « voix au chapitre ». J'imagine qu'il faut être lectrice et avoir envie de partager ses enthousiasmes. Alors, quelle lectrice vous êtes, Manuela ?
Alors, disons que ça dépend des périodes de ma vie. Mais
donc, ça veut dire qu'il y a une longue vie, donc plusieurs périodes.
Peut-être pas si longue que ça, je suis encore un peu jeune, mais je lis depuis que j'ai peut-être 6 ans. Enfin, j'ai commencé à partir du moment où je pouvais lire tout court. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de périodes pendant lesquelles j'ai pu lire énormément et où j'ai pu rester bloquée sur un genre en particulier. Alors qu'il y a d'autres périodes où j'ai lu peu. Et d'autres périodes où j'ai lu beaucoup, notamment la période du Covid, où j'ai vraiment beaucoup plus ouvert mes horizons sur beaucoup de genres différents.
Ouvert les horizons. Alors, vers quels horizons vous vous êtes ouverte pendant cette période mémorable du Covid, de la Covid ?
Alors, je me suis mise à lire pas mal de thrillers à ce moment-là, parce que les bibliothèques étant fermées, ma bibliothèque restante, c'était celle de ma grand-mère. Et qu'elle en lit énormément. Donc, ça a été ma source de lecture. Après, j'ai replongé dans des classiques que j'avais pu lire à l'école et qui, à l'époque, m'étaient passés un peu au-dessus de la tête parce qu'à l'école, les choses ne sont pas intéressantes. Alors qu'au final, quand on les lit de son côté, ça peut être super bien.
Quel classique ?
Antigone ? Notamment, qui est vraiment très bien. J'aime beaucoup l'histoire.
Lequel ? Anouilh ?
Oui. C'est celui qu'on lisait vraiment. Je crois que toutes les personnes que je connais de ma génération l'ont lu à l'école.
J'aime bien l'expression « à l'école ». C'était au lycée, ça ?
Non, c'était au collège.
Au collège.
Oui. J'ai pas fait tant de lycée que ça pour ça. Mais oui, non, ça. Et puis « La ferme des animaux » aussi.
Il y a pire que ça comme lecture. Hein,
oui, mais bon, hein. À l'école, les profs ont cette capacité à rendre les choses inintéressantes.
Bien, ça, c'est fait.
C'est pas pour être méchante avec eux, j'ai eu très bons profs de français. Mais.
Ça veut dire que. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui disent l'école républicaine m'a sauvé. L'école républicaine m'a donné l'envie de, m'a donné le goût du théâtre, de la littérature, etc. Vous, c'est pas le cas.
Non. Moi, l'école, ça a vraiment pas été mon truc. C'est en dehors de l'école que j'ai appris à aimer la littérature et d'autres sujets. Parce que bon, il y a d'autres cours qui ont été très peu intéressants pour moi à l'école et qui, une fois l'école arrêtée, tout d'un coup, ça devient super intéressant.
Est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez fait ce que tout enfant normal doit faire, c'est-à-dire lire avec sa petite lampe sous sa couverture
Alors, je pense que j'avais pas forcément besoin de ça parce que mes parents s'en fichaient. Donc, je lisais énormément et si je me couchais tard, je me couchais tard, quoi.
Les lectures du soir, quand vous étiez enfant, c'était quoi ? Quand je dis enfant, c'est vraiment enfant, quand vous aviez moins de 10 ans.
Alors...
Si vous en souvenez.
Il y a eu tous les classiques du type Harry Potter, Eragon. Le problème, c'est que j'ai commencé assez tôt à lire des livres qui étaient plutôt dans la catégorie... jeune ado, plus qu'enfant. Après, pas mal de mangas et de BD aussi à l'époque, que j'ai plutôt négligé par la suite. Mais c'était des lectures faciles, et je pouvais en emprunter 10 à la bibliothèque et y retourner le lendemain.
Ça, c'était cool, ça.
Ouais.
Est-ce qu'il reste un auteur de BD ? Je parle pas de manga, de BD, comme ça, en mémoire, ou une série BD, ou...
Alors là, sur le coup, en BD, j'en ai aucune idée. Ça date vraiment beaucoup pour moi.
C'était des moments de plaisir qui restent des souvenirs, mais pas forcément en identifiant un auteur ou une série particulière.
J'en ai une en tête, mais j'arrive absolument pas à me souvenir du nom de la série. Donc, c'est là, mais j'ai toujours des images.
Est-ce que... Alors, on l'a dit, vous animez une émission qui s'appelle Voix au chapitre, qui est diffusée le samedi matin, qui dure une demi-heure, c'est ça ?
C'est 20 minutes.
20 minutes, 20 minutes de lecture. C'est en direct ou en enregistré ?
Je vais casser le mythe, c'est en enregistré.
C'est en enregistré. Ouais. Ah, quelle déception.
Oui, je sais, mais il y a beaucoup de travail sur le montage. Donc, j'ai un peu tendance à buter sur certains mots un peu compliqués.
Oui, alors... On parlera de cet aspect. Pour animer une émission de radio et pour lire, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Est-ce que vous êtes préparé à la lecture à voix haute ?
Alors, avant ça, j'en avais jamais fait. Donc, ça a été un vrai plongeon dans l'inconnu quand j'ai commencé. Et... Ouais, non, je crois que j'avais jamais réellement fait de lecture à voix haute, même à l'école. C'était pas j'avais plutôt tendance à l'éviter si je pouvais, donc c'est vraiment pas dans mes compétences de base, mais je crois que je peux le rajouter maintenant.
Oui, alors moi j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller prêter une oreille à cette émission qui est le samedi matin, mais qui est aussi disponible en podcast. Moi, j'ai été surpris par la production d'émission. Effectivement, il y a du travail. On sent le travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on entend, il y a un soin particulier. Et quand je vous interroge sur la question de la lecture à voix haute, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter.
Merci.
Donc, sans pour autant que ce soit, c'est pas parce que c'est Radio G ou autre, mais je me suis fait prendre par les lectures. Je me suis fait prendre tout bonnement. En fait, j'ai écouté. Tout simplement. Et ça a fonctionné avec moi, en tout cas. Et puis après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, c'est quand même pas mal bien produit, ce truc-là. Enfin, c'est quand même pas mal réalisé. Vous faites tout toute seule ?
Oui. Ouais. Oui, je gère tout de A à Z.
Enregistrement, tout ?
Ouais, l'écriture de l'émission, l'enregistrement, le montage.
Il y a du travail, là. Hein ?
Oui, mais... Moi, comme je m'amuse, je vois pas vraiment le temps passer, donc j'ai pas l'impression de bosser vraiment. C'est un moment de plaisir de faire tout ça.
Donc Je suis en train de perdre le fil de la conversation, excusez-moi. Oui, c'est, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une émission qui était effectivement bien produite. Quelle est la littérature que vous abordez dans cette émission-là ? Parce que il me semble, je ne vais pas me tromper, je l'ai écouté, donc je sais de quoi je parle. Vous êtes dans quel champ de la littérature ?
Alors, j'essaye de viser un peu large en termes de genre et d'origine des auteurs aussi. Donc, je ne saurais pas trop mettre de limites, parce que mon objectif aussi derrière, c'est que tout le monde s'y retrouve.
Alors, ça a commencé quand même par les littératures de l'imaginaire.
Oui, effectivement.
Quand même.
Alors, sans spoiler, d'ici peut-être 4 semaines, il y a un livre de non-fiction qui va se...
Livre de non-fiction ?
Oui.
Ah, quand même. Alors là, je suis impatient d'écouter. Bon, dans l'imaginaire, vous n'avez pas choisi n'importe qui. Il y a quand même Murakami.
Oui.
C'est un incontournable.
Oui.
On ne peut pas l'éviter.
Non, j'ai l'impression que non.
Vous avez lu quoi de Murakami ?
J'ai lu pas mal de ses bouquins.
Oui.
Des plus classiques, ses autobiographies aussi et les recueils de nouvelles. Mais je crois que je m'en suis un peu éloignée récemment. Mais le meurtre du commandeur est resté vraiment important pour moi.
Donc ça, c'est... Là, vous êtes maintenant dans la machine. C'est-à-dire que de toute façon, l'engagement que vous avez avec Radio G, c'est jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, c'est plus possible de se retirer. Voilà, il faut y aller. Ça veut dire que vous êtes confronté à quelque chose qui est extrêmement particulier et qui génère du stress chez tous les animateurs, c'est faire un programme. Donc, trouver des auteurs. Alors, vous dites, dans 4 semaines, surprise, non-fiction. Vous avez commencé à vous constituer un peu une pile comme ça de bouquins pour avoir du stock d'avance ?
Alors, il y a ce truc que j'ai calculé. Pour tenir jusqu'à fin juin, il me faut 21 livres. Il m'en manque 3.
Voilà, oui. Comme quoi, l'alchimie de la radio, c'est aussi des mathématiques.
J'adore les mathématiques, c'est peut-être pour ça.
Je trouve ça génial. Pour préparer cette émission, je vous ai demandé de venir avec 3 livres. Voilà, oui. C'est un peu pas un défi, mais c'est toujours intéressant de connaître quelqu'un par ce qu'il lit, par ses enthousiasmes, ses envies. J'ai bien parlé de livres extraits de votre bibliothèque. Et vous êtes venu avec quoi ?
Alors, du coup, je suis venu pour commencer. Du coup, j'en ai déjà parlé avec Eragon de Christopher Paolini.
Comment peut-on éviter Eragon ? C'est la question que je me pose.
C'est une grande question. Ça a un peu... Alors, pour la petite histoire, c'est un cadeau de Noël de la part de mon oncle. Et c'est le premier vrai bouquin de fantasy que j'ai lu quand j'avais 8 ans. Mmh. Donc, il a une grande importance pour moi.
Il a de l'importance pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
J'ai l'impression.
C'est une référence pour le public. Enfin, moi, je suis assez surpris parce que j'ai l'impression que c'est une référence presque... Autant que Harry Potter, enfin, il y a quelque chose là d'impressionnant dans cette série-là, parce que Eragon, c'est une série. Donc, Eragon, ensuite.
Alors, en deuxième, j'ai pris le livre du Long Soleil, enfin l'intégrale de Jane Wolfe, qui est plutôt sur la science-fiction, fantasy. Et c'est parce que je pense que c'est mon bouquin préféré. Je l'ai découvert période Covid et vraiment gros coup de cœur dessus.
Alors, vous êtes capable de dire, je ne sais pas quel âge vous avez, que c'est votre bouquin préféré.
Ouais.
Donc, aucun autre livre ne l'a détrôné.
Pour l'instant, non.
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 Donc, pour les auteurs, la barre est placée très haut.
Très, très haute, parce que Jane Wolfe, vraiment...
Ça parle de quoi, ce livre-là particulièrement ?
Oula Le problème, c'est que...
Ça se situe où ? C'est...
En fait, ça se passe dans un... C'est pas un autre univers, parce que pour moi, c'est de la science-fiction à proprement parler, même si certains diraient que c'est de la fantasy. Mais c'est... Comment dire ? C'est une histoire qui est très longue et il se passe beaucoup de choses et en même temps, ça reste un vrai roman fleuve. Et je sais pas, c'est plus l'ambiance qui me touche que l'histoire de fond.
Est-ce qu'on pourrait associer, par exemple, quelque chose comme Le Seigneur des Anneaux ? Je parle pas dans les thématiques, je parle dans le sentiment qu'on a
oui.
en lisant.
Oui.
C'est-à-dire une forme de... Quand on attaque Le Seigneur des Anneaux, on part ailleurs et on, ça y est, c'est fini.
Oui.
On vit complètement ailleurs. On est dans cette forme de roman-là ?
Totalement. Ouais. On se sent ailleurs et on est vraiment plongé dans l'histoire. C'est assez... Enfin, je trouve ça impressionnant, mais...
Et quand on lit ça, on vit dans l'univers tout le temps qu'on le lit. Quoi. Enfin,
ouais.
On n'en décolle pas. On se réveille le matin, on s'endort le soir, comme
mais
ça.
Mais totalement. Ouais. J'y pense parfois en journée. Et encore, hein, là, j'ai fini de le lire. Et pourtant, ça me revient régulièrement.
Oui. Et le troisième livre, alors, c'est quoi ?
Alors, c'est un recueil de poèmes qui s'appelle « Saïra » de Pauline Bilissari et qui est sorti récemment. Il y a eu le festival Cultissime récemment sur Angers et je l'ai découvert là-bas. Je l'ai ouvert un peu par hasard et je suis tombée sur un poème qui m'a touchée personnellement. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Et il m'a fait pleurer parce que c'est vraiment des sujets où je me sens personnellement touchée. Donc, je ne sais pas, ça...
Donc, de la poésie.
Ouais.
Vous dites, j'ai croisé ce livre dans un festival, j'ai vu le livre, je l'ai ouvert, j'ai lu, j'ai craqué, je l'ai acheté.
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'il y avait de la lecture de poésie avant ?
Je lis très peu de poésie, vraiment très peu. J'en lis, mais je dirais que je suis assez compliquée sur le sujet. Donc,
compliquée sur le sujet, quelle expression !
Bah, disons que je suis difficilement séduite par la poésie.
Oui.
Mais ouais, là, ça a un peu été un hasard. J'étais avec une amie qui a dit « Ouais, les poèmes, c'est pas trop mon truc. » Et du coup, ça m'a donné envie de l'ouvrir, juste histoire de voir.
Oui.
Parce que moi non plus, de base, les poèmes, c'est pas trop mon truc. Et finalement, quand on trouve les bons, les poèmes, ça peut être notre truc.
Donc, c'est voilà, la question de la littérature, de la lecture, en fait, c'est qu'une question de rencontre. Quoi. Il n'y a pas de... Alors, ça recoupe un peu ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous parliez de l'école, du rapport à l'école, des lectures imposées. En fait, quand c'est imposé, ça ne marche pas trop parce que ça ne marche pas trop. Quoi. C'est tout simple. Hein. Et puis, finalement, la rencontre avec les livres, elle se fait dans la bibliothèque de la grand-mère pendant le Covid et on découvre les thrillers. Voilà, c'est un peu des cheminements comme ça, chaotiques, pas voulus, involontaires. Moi, je vous avais demandé, alors je vous ai proposé de nous lire quelque chose. D'abord parce que vous animez une émission dans laquelle vous lisez. Moi, qu'on entende votre voix, tout bonnement. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors, bah, du coup, je me disais, comme je ne pense pas lire de poème dans mon émission, je vais sans doute prendre un poème de ce recueil, du coup. Mmh. Et j'en avais choisi un parce qu'il est horrible. Non, horrible dans le sens où il me touche
beaucoup
personnellement. Il faut que je le retrouve. Je ne sais pas où je l'ai foutu.
Voilà. Manuela est en train de feuilleter ce très beau livre avec qui est peint de pavots sur la tranche, sur toutes les tranches.
Ouais.
C'est la couverture, c'est un pavot. C'est un livre broché. Là, je meuble. Hein, je suis.
Oui, je vois ça. Je suis désolée. Vraiment, je vais le retrouver. Voilà. Hein,
le suspense est presque à son comble là, mais on va y arriver. Ça ira de toute façon nécessairement. Ce
voilà,
titre du recueil.
C'est le nom du truc. Alors, je sais que je vais le trouver autrement.
Bon. Donc, elle agit de manière contemporaine. Elle prend son smartphone et ça va passer par le smartphone.
Sachant que, pour combler un peu le vide, du coup, j'ai pu avoir un autographe de l'auteur.
Ah.
Parce que, du coup, je suis allée la voir
en
lui disant « Oui, j'ai ouvert votre recueil. Le premier poème, il m'a un peu agressée. Franchement, j'adore. Du coup, je l'ai acheté. » Et du coup, elle m'a fait un autographe.
Bien. Donc, livre dédicacé. Alors, le texte, maintenant.
Alors, je l'ai, du coup.
Voilà.
Je marche sur un fil tendu au-dessus du vide. Et personne ne dit rien. Personne n'ose approcher. Venez, regardez le spectacle. C'est gratuit pourtant. Pas même besoin de donner une pièce pour m'observer tomber. Venez, regardez. Je ne sais faire que ça, finalement. Réclamer de l'attention, quémander de l'amour, attendre patiemment que l'on m'aime, alors que je suis là, au bord du vide, et que personne ne me retient. Allez, dites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Aimez-moi, serrez-moi dans vos bras. Empêchez-moi de sauter. Venez, regardez, le spectacle n'est pas terminé. Pourquoi gardez-vous les yeux fermés ?
On peut comprendre l'émotion qu'il peut susciter quand on l'écoute, quand on vous écoute le lire. Ça me rappelle un recueil de poèmes de Attila Joseph qui porte le nom de « Aimez-moi ». Mmh. Voilà. Et Attila Joseph est un grand poète hongrois dont on devrait lire plus souvent les poèmes. Écoutez, Manuela, moi, je vais souhaiter longue vie à Voix au chapitre.
Merci.
Je vais suivre avec toujours beaucoup d'attention ce que vous lisez, parce que, voilà, il y a eu de la fantaisie. Je ne cache pas que, moi, la fantaisie s'est arrêtée au Seigneur des Anneaux. Mais ça, c'est générationnel. Hein, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas me refaire. Hein. Moi, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, je souhaite longue vie à Voix au chapitre et on va faire une pause musicale.
J'aimais les rires, j'aimais les rondes, quel combat que le temps nous jouait. Ralentir juste une seconde, l'innocence nous a-t-elle laissé? Reviendra-t-elle jamais? Cours après elle pour voir. Je vis dans cette ville, j'essaie. Le cœur me dit, le cœur me crie, ne te retourne jamais. Ça commence à se voir. Innocence nous ont laissé. On n'arrive plus à se voir. Les nuits sont courtes, c'est hiver. La nuit est belle, quelquefois. Et où vont donc ces lumières? Vu qu'au sous tes pas, j'ai lâché le ciel. Je fais semblant d'y croire. Je vais partir il y a des semaines. Et tout me dit que tu reviendras pas. Les nuits sont courtes, c'est hiver. La nuit est belle, quelquefois. Mais où vont donc ces lumières? Est-ce que j'entends tes pas? Mais où vont donc ces lumières? Je voudrais le faire si t'es pas là. J'impose comme une colère. Comme ta gueule qui revient pas. Mais où vont donc ces lumières? Les murs pas même de toi.
C'était le groupe Stockholm qui a chanté « La nuit », où on se rend compte que le rock et la langue française sont capables de faire très bon ménage. C'est un nouvel album et moi j'ai découvert ce groupe et je vais suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de ce qu'ils vont faire. Vous êtes toujours sur Radio G, vous écoutez toujours Entre les pages et c'est la fin de l'émission. D'ailleurs, un petit rappel de ce que vous avez entendu dans cette émission. Vous avez entendu Colin Linder qui a chanté Cuerpo et Stockholm, donc qui a chanté la nuit. Dans votre agenda, si vous vous ennuyez, voilà quelques rendez-vous. Tout d'abord, ce samedi 25 octobre, à la bibliothèque de Rochefort, vous êtes invité à 10h30 par l'association Poésie Cause Toujours et la Miel 49 pour rencontrer la poétesse Ulrike Bay. Et puis, comme vous n'en aurez pas assez, il y a le mercredi 29 octobre à 16h, c'est à nouveau nos amis du Repère des Héros à Angers qui vous invitent à venir rencontrer Sylvain Runberg et Serge Pellet à l'occasion de la sortie du volume 9 de la série Orbital. Et comme vous n'en aurez toujours pas assez, le jeudi 30 octobre à 19h, c'est à la librairie Myriagone qu'il faudra vous rendre pour venir à la rencontre de Céline Minard et de son nouveau roman Tova Hangar. Avant de refermer tout doucement la porte du studio, vous dire qu'ici à Radio G, l'inquiétude est à un très haut niveau. Après la diminution drastique de la subvention de la région en 2025, c'est une baisse sans précédent du budget du FSER pour 2026 qui se dessine. Le FSER, c'est la subvention accordée aux radios associatives pour leur permettre d'exister. Rendez-vous compte, moins 44%. Pardon. Il va nous en falloir du courage pour résister et maintenir les micros ouverts. Mais il en va de la liberté d'expression comme de la santé ou de l'éducation. Cela n'existe que parce que l'on se bat pour. Je m'excuse. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 5 novembre à 17h, de nouveau avec Marc-Antoine Mathieu. Parce que son nouvel album est infiniment infini. À vous tourner la tête, enfin, à condition de le trouver, le nouvel album. Et vous dire que je suis ravi de l'accueillir est un véritable euphémisme. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette animé par Pierre Benoît. Il est temps que l'émission s'arrête parce que ma voix est en train de s'en aller aussi. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.